Le grand débat avec Francis Laloupeau.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Grand Débat. Chaque jour du lundi au vendredi, l'actualité internationale commentée et analysée sur la radio africaine. Un numéro de téléphone pour nous joindre à partir de 18h30 de préférence. C'est le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, intervenir sur notre page Facebook, facebook.com/legranddebat.
Africa numéro 1, Le Grand Débat.
Dans le grand débat aujourd'hui, l'exception politique togolaise. À l'issue de la dernière présidentielle, c'était fin avril 2015, le président Faure Gnassingbé a été reconduit au sommet de l'État au Togo pour un troisième mandat. L'opposition qui combat ce pouvoir depuis plusieurs décennies semble avoir renoncé à toute contestation durable. L'ordre règne donc au Togo et l'inamovible régime qui, de père en fils, préside aux destinées du pays, semble plus que jamais assuré de sa toute puissance. Comment expliquer cette exception togolaise dans une région en pleine mutation démocratique? Réponse dans ce grand débat avec nos invités et l'émission réalisée par Maxime Salin.
Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat.
Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/legranddebat. Bienvenue à tous nos amis. Et salutations appuyées à ceux qui nous écoutent, notamment à Lomé, à Kinshasa, à Dakar, à Abidjan, à Lubumbashi ou à Washington DC. Tout de suite, sans transition, retrouvons nos invités pour le débat.
Le grand débat. Analyse. Décryptage. Coup de gueule. Commentaire. Le grand débat sur Africa numéro 1.
Un seul et même parti politique aux commandes de l'État togolais depuis 5 décennies. Une opposition d'abord réprimée durant des années, puis autorisée à participer aux jeux politiques, mais sans le moindre espoir de remporter la bataille de l'alternance. En Afrique de l'Ouest, où la plupart des pays adhèrent au respect des règles démocratiques de l'alternance, le Togo apparaît comme une exception. Alors comment expliquer le cas togolais et comment comprendre l'intangible suprématie d'un parti-État qui, face à une centaine de formations politiques, a fait d'un pays un patrimoine privé? Et comment les adversaires de ce pouvoir ont-ils contribué à pérenniser cette exception togolaise? Réponse dans ce grand débat avec nos invités. Avec nous ici en studio, Fulbert Atissot, Fulbert Sassou Atissot, bonsoir.
Bonsoir Francis Laloupeau.
Fulbert Atissot, journaliste, essayiste, président du parti Le Togo Autrement, nouveau parti politique au Togo. C'est le 111e parti qui vient donc d'être
créé. C'est le 108e.
108e, d'accord, on n'en est pas encore, 111.
Il y en a eu une pléthore,
d'accord,
mais il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent sur le terrain.
D'accord, mais on m'a dit qu'avec quand même 110 partis pour l'instant, 110, 111.
Non, 109.
109, vous êtes l'avant-dernier arrivé.
Tout
alors,
à fait, il y en a un qui a été constitué après nous.
D'accord.
Mais comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont inscrits sur le fichier du ministère de l'administration territoriale,
oui,
mais il y en a très peu qui sont fonctionnels sur le terrain.
D'accord. On en parlera tout à l'heure. Votre nouveau parti politique a vu le jour, c'était en juin 2014. Vous êtes l'auteur de Le Mal Togolais, quelle solution, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Avec nous au téléphone, Yves Ekwe Amaizo, coordonnateur général de CVU Togo Diaspora, c'est le collectif pour la vérité des urnes. Yves Ekwe Amaizo, bonsoir.
Bonsoir Francis Laloupeau, bonsoir aux invités.
Alors le site de votre collectif, du collectif pour la vérité des urnes, c'est cvu-togo-diaspora.org. Alors je vais vous signaler, chers invités, que bon, on l'a pas fait exprès, hein, c'est vraiment le hasard de la programmation, comme on dit. Nous sommes le 13 janvier et il y a 53 ans exactement, c'était le 13 janvier 1963. Le monde assistait au premier coup d'État sur le continent africain. Cela s'est passé au Togo et cela s'est soldé par l'assassinat du premier président du Togo, Sylvanus Olympio. On n'a pas fait exprès, mais bon, voilà.
Mais non, c'est un hasard de calendrier.
Oui.
Parce qu'on ne s'est pas dit que aujourd'hui ça va être, la date anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je profite de cette occasion pour saluer la mémoire de cet illustre personnage. Et puis saluer le grand combat qu'ils ont fait pour faire en sorte que le Togo devienne aujourd'hui un État souverain.
Un État souverain. Fulbert Sassou Atissot, vous venez donc de publier Le Mal Togolais, quelle solution? Alors, ça vient de paraître, je le disais, aux éditions L'Harmattan. Vous y expliquez notamment que, je vous cite, le mal togolais résulte, enfin, je vous cite en parlant du mal togolais, pour vous, ce mal togolais résulte d'un face-à-face permanent, un affrontement permanent depuis 50 ans, entre deux camps politiques dans votre pays. Alors on apprend donc que ces deux camps, ce sont d'un côté les nationalistes et de l'autre côté ceux que vous nommez les progrès. Alors il faut nous expliquer tout ça parce que ces deux camps ont selon vous pris les Togolais en otage depuis 50 ans.
Oui. Alors, je vais expliquer ce que j'appelle dans mon livre « Le mal togolais », mais pas avant d'avoir dit bonjour à vos auditeurs. Et puis, bonjour à tous les Togolais de la diaspora, à qui je présente mes meilleurs voeux.
Et à ceux qui vous écoutent aussi au Togo. Hein,
tout à fait, ceux qui m'écoutent au Togo. Et peut-être aussi vous remercier, parce que chaque fois que j'ai l'occasion de venir en Europe et de passer par Paris, vous me faites toujours l'honneur de me recevoir. Bien Donc, sûr. Je vous remercie.
C'est
pour
un
ça.
Plaisir.
Tout à fait. Alors, je dis dans mon bouquin qu'il existe un mal togolais. Et il existe un mal togolais quand on le dit... C'est valider un postulat que tout le monde connaît. Tous ceux qui connaissent ce pays savent qu'il existe un mal togolais. Et je fais la différence, la nuance entre un mal togolais qui existe et le Togo va mal. Parce que le Togo va mal connote la malgouvernance, l'échec des politiques publiques. Mmh. Par contre, quand on dit que le Togo a un mal, le Togo a mal, cela veut dire qu'il existe un problème de fond. Mmh. Il existe des éléments... Mmh. Politique.
Ça veut dire qu'il est malade. Mais malade donc de quoi?
Tout à fait que ce pays est malade. Alors, il faut dire aussi, et ça je tiens à le dire, ce livre fait la boucle entre une série des livres que j'ai publiés. D'abord, la problématique de l'alternance politique au Togo, et puis le Togo sous la dynastie Deng Xianbe.
Vous avez reçu ici pour ça.
Venu présenter ici. Et puis, ce livre fait la boucle et constitue une contribution majeure à la réflexion politique, parce qu'il faut quand même trouver une solution à ce mal-là. Mmh. Alors, je dis que ce mal, c'est la permanence d'un face-à-face entre deux courants politiques. Oui. Et ces deux courants politiques sont nés pendant la lutte pour la décolonisation et se sont déjà affrontés. Donc, d'un côté, les nationalistes, c'est-à-dire que ceux qui voulaient que le Togo accéda à l'indépendance illico presto, avec un gouvernement formé de cadres togolais, et de l'autre, les progrès, à ce qui est à dissocier des progressistes.
C'est ça, justement, c'est pour ça que je te pose la question. Les progrès, je n'avais jamais entendu ça.
Les progrès, c'est peut-être que c'est une formule typiquement togolaise. Les progrès, c'est ceux qui étaient regroupés dans des partis qui étaient créés par l'administration coloniale et qui voulaient que le Togo reste encore dans l'emprise de la tutelle du colonisateur.
C'est le cas du RPT, par exemple, qui
non,
est au
non,
pouvoir.
Non, non, le RPT est né bien plus tard.
D'accord.
C'est le cas du PTP,
d'accord,
le Parti Togolais du Progrès, de d'accord, Nicolas Gruninski. Et les progrès, on en a connu aussi dans d'autres pays africains. Mmh. C'est comme, par exemple, au Bénin, avec Maga, en Côte d'Ivoire, avec Ofoué-Boigné, en Haute-Volta.
Qui était le RDA.
Tout à fait.
Pardon, le RDA.
Le RDA, pardon. Le PDCI-RDA.
C'est ça.
Voilà. Et puis ensuite, en Haute-Volta, avec Maurice Yamehogo, tout ça, c'était des courants politiques qui étaient d'accord avec le colonisateur français et qui voulaient que leur pays reste encore sous l'emprise de la colonisation.
D'accord.
Et de l'autre, les nationalistes qui voulaient que l'indépendance soit obtenue illico presto. Mmh. Donc les deux courants-là se sont affrontés. Et au Togo, c'est le courant nationaliste qui l'a emporté. Mmh. Parce que les élections de 58 ont été remportées par le CUT, le Comité de l'Unité Togolaise, le parti de Silvanus Olympio. Et donc, 2 ans après, il a pris le pouvoir en tant que premier président de la Première République. En 63, on l'a rappelé tantôt à l'entame de cette émission, il y a eu le fameux coup d'État de Gnassingbé Eyadema. En tout cas, c'est Gnassingbé Eyadema qui a réclamé la paternité de ce...
Et qui était à la tête de la troupe.
Tout à fait, de ce coup d'État. Et puis, on a... amener Nicolas Gruninski qui était exilé à Cotonou, qui est venu prendre le pouvoir pendant 4 ans. Mmh. Et en 67, Eyadema revient au pouvoir.
Très bien.
Et donc, cela veut dire que même entre 60 et 63, il y avait eu toujours ce face-à-face, ce tête-à-tête entre les nationalistes et les progrès. Mmh. Et en 67, quand Eyadema est revenu au pouvoir, 2 ans après, en 69, il a fondé justement le Rassemblement du Peuple Togolais, son parti.
Le RPT.
Mais ce qu'il faut monter en épingle, c'est le fait que le RPT a été créé un 30 août 69 et la République autonome du Togo. La République autonome du Togo qui était une formule toute trouvée par le colonisateur après l'adoption de la loi cadre de Gaston Defer. Et la République autonome du Togo a été fondée le 30 août 56. Mmh. Donc ce n'est pas par hasard que Yadema a fondé le RPT le 30-69. Donc Yadema s'inscrivait avec son parti, le RPT, dans la continuité de l'idéologie des progrès.
D'accord.
Et donc, à partir de 67, la confrontation a encore continué avec les reliquats des nationalistes et les progrès qui étaient...
Ce sont donc ces deux courants qui ont pris, selon vous, en otage les Togolais depuis 50 ans. Alors, vous me direz pourquoi ? Alors, parce que cet affrontement a eu lieu dans d'autres pays africains. Alors, vous me direz pourquoi, au Togo, cela a produit l'effet que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire cette stagnation que vous décrivez dans votre ouvrage, et surtout cette réfraction, je dirais, au progrès démocratique. On va demander à Yves Kouyamaïso de nous faire part de son commentaire. Est-ce que vous associez à ce constat, à ce décor de la vie politique au Togo, tel que vient de le décrire Fulbert Atisso?
Je pense que le constat, il est valable, mais il reste historique. Moi, j'ai une autre version de ce mal togolais dont il a parlé dans son livre. Il me semble que le problème de fond, quand je dis il me semble, c'est tout un groupe d'intellectuels que nous avons au niveau du collectif pour la vérité des urnes, qui pensons qu'il y a une conception culturelle du pouvoir au Togo.
Oui.
Et je vais m'expliquer. Il s'agit d'une conception du partage de la richesse par celui qui détient le pouvoir. Il détient ce pouvoir par la force militaire, juridique, avec tout ce que vous connaissez au niveau des injustices et autres, mais en utilisant aussi les ecclésiastiques et les cercles ésotériques. L'ensemble de tout ceci crée une pyramide que vous connaissez bien, à la tête duquel il y a un président qui est inamovible, puisqu'il s'agit par définition, et son rôle étant celui-là, de distribuer. Sauf que tout ceci se fait un peu partout. Au Togo, ça se distribue non pas sur la compétence, le travail, la productivité, l'accumulation des valeurs ajoutées, mais beaucoup plus par un accaparement de richesses existantes, matières premières, exploitation de toutes sortes, et dans un vase clos ou dans un cercle fermé, qu'il soit ethnique, qu'il soit de communauté restreinte, amicale et autres, familiale. Mais, et c'est là le vrai, je pense, le mal, il faut des conditions d'allégeance, que j'appelle le larbinisme. Cette allégeance-là prend plusieurs formes. Des formes toutes simples, alimentaires, on a besoin de manger, on s'inscrit, on devient ministre et autres. Des formes beaucoup plus subtiles, les mariages et autres, et beaucoup plus pervers, notamment avec l'étranger, où on finit par financer même des partis extérieurs, dont certains en France.
C'est ça.
Et un deuxième élément très important, ça c'est la première partie. Le deuxième élément, et là je suis dans l'actualité, c'est un refus fondamental, on le retrouve dans le secteur privé pour l'entreprise, un refus fondamental de s'organiser, je dis bien s'organiser, se structurer collectivement. Vous ne trouverez pas une diaspora qui va cotiser pour se soutenir en tant que diaspora ou soutenir quelqu'un d'autre. Vous l'avez chez les peuples chinois, juifs, canadiens ou autres. On en trouve. Vous ne trouverez pas des...
Même malien d'ailleurs.
Exactement. Vous ne trouverez pas un groupe qui va se structurer, qui va soutenir les autres. Les Bamileke l'ont montré au Cameroun ou bien d'autres, etc. Ce sont les deux éléments qui nous semblent être à la base aujourd'hui de ce mal. Bien sûr, historiquement, ça vient bien de ces éléments politiques qui ont été évoqués tout à l'heure.
Il s'agit donc pour vous d'une culture politique ensemble.
C'est une culture. Il s'agit bien d'une culture. C'est pour ça que la culture donne naissance à un système. Et donc le système, par définition, puisqu'il est pyramidal, il n'y a aucun objet, aucune volonté, justement, de passer à un style de changement, donc d'alternance. Et le problème, comme s'il s'agit d'un système d'allégeance, bien sûr, au bout d'un moment, ceux qui font la lutte, ils finissent par s'essouffler. Hein, c'est un marathon démocratique qui n'aboutit jamais.
On entend
et à
bien.
Force de s'arrêter, ils finissent par s'arrêter. Du coup, en disant, je rejoins le système, je me mets dans la pyramide, quel que soit mon niveau, et puis j'abats les voisins pour monter plus haut.
Très bien. On entend bien, évidemment, vos deux approches. Hein. Pour Fulbert Atisso, c'est plutôt une structure politique qui explique la situation, le mal togolais, comme il le dit. Et pour vous, Yves Kouyamaïso, il s'agit d'une culture politique qui s'est donc enracinée dans ce pays et qui est évidemment au sommet de l'État. On va continuer d'en parler, de ce mal togolais, de cette exception togolaise, après la pub. Restez avec nous, on marque une pause.
Le Grand Débat, 18h-19h, avec Francis Laloupo sur Africa numéro 1.
L'exception politique togolaise, nous en parlons avec nos invités, Fulbert Atisso, journaliste, essayiste. Il vient de publier Le Mal togolais, quelle solution, aux éditions L'Harmattan. Et avec nous au téléphone, Yves Kouyamaïso, coordonnateur général de CVU Togo Diaspora, c'est le collectif pour la vérité des urnes. Yves Kouyamaïso est par ailleurs économiste. Alors, Philbert, bon, une fois qu'on a posé le décor ici, oui. C'est vrai qu'on assiste quand même depuis plusieurs décennies à un affrontement classique entre ce qu'on appelle d'un côté un pouvoir et de l'autre côté l'opposition. Alors vous écrivez vous-même que, alors je vous cite, la démocratie peine à s'installer et l'alternance est étouffée par le parti au pouvoir, le même qui dirige le pays depuis bientôt 50 ans et ne cache pas sa volonté de continuer. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu rapide de dire que finalement, que deux camps ont pris en otage les Togolais alors que l'on sait que c'est avant tout l'extrême brutalité du régime en place et la confiscation du pouvoir qui ont produit cette exception togolaise dont nous parlons?
Oui, mais qu'est-ce qui fait que le pouvoir utilise ce que vous appelez cette extrême brutalité? Alors, tout à l'heure, j'ai écouté mon ami Yves Kouyamaïso, que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait de bonnes analyses, surtout sur le plan économique. Mais je dis, les éléments qu'il a évoqués, l'élément culturaliste, la conception culturaliste du pouvoir et le refus d'avoir une organisation structurée, etc. Je mets tout ça dans les éléments qui fondent le mal. Parce que le mal togolais, c'est un puzzle. Mmh. C'est un ensemble d'éléments qu'il fonde. Mais je dis simplement qu'il y a un soubassement. Et tous les éléments qu'il a cités, j'en parle un peu dans mon livre, dans les conséquences que le mal togolais a générées. Parce que le mal...
Alors, pour faire simple, pour qu'on comprenne bien, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. À l'origine du mal togolais, est-ce qu'il y a ce régime qui a cette culture singulière qui fait que, voilà, finalement, il y a quand même une succession dynastique et que 50 ans plus tard, c'est le même parti aujourd'hui qui est à la tête de ce pays, ce qui devient de plus en plus rare quand même sur le continent.
Mais la conception singulière est venue de ce que, dès 1967, quand Yadema est venu au pouvoir, il a été confronté à la volonté du retour des progrès, des nationalistes.
Ce qui est légitime.
Ben, tout à fait.
Dans un affrontement, dans une rivalité politique, c'est tout à fait légitime.
Dans les années 70, Gilchrist Olympio a pris la suite des nationalistes qui étaient fatigués, qui avaient pris de l'âge. Il a créé en France le MTD. Et puis l'affrontement a continué entre Gilchrist Olympio et Gnassingbé et Yadema, jusqu'en 1990. Et l'erreur que nous avons commise et que le Bénin n'a pas commis, c'est le fait qu'à partir de 90, les Togolais ont transposé dans la vie politique le même face-à-face entre les nationalistes et les progrès. Oui. Alors que le peuple qui contestait le régime à partir de 90 réclamait des espaces de liberté, plus de pain et la démocratie.
D'accord, justement. Donc, est-ce que le pays aurait connu les tragédies qu'on connaît depuis 25 ans, par exemple, pour tenir compte que de cette période, cette crise politique interminable qui caractérise votre pays? Et est-ce que cela serait arrivé si le pouvoir avait joué le jeu plutôt de la conférence nationale?
Oui, tout à fait. Si le pouvoir avait joué le jeu de la conférence nationale, avait accepté...
Y compris le jeu de l'alternance.
Absolument, parce que la conférence nationale avait dégagé des perspectives pour la relance de la vie politique, en demandant des libertés, en changeant même la constitution du pays, etc. Donc le pouvoir n'a pas voulu jouer le jeu. Pourquoi? Tout simplement parce que l'opposition avec à sa tête l'UFC, qui est resté le parti le plus populaire, Gilchrist Olympio, qui a repris tout l'héritage de son père et qui est devenu dans la vie politique togolaise jusqu'à son dernier accord avec le parti RPT, un mythe. L'opposition a transposé dans la vie politique ce même face-à-face.
On se souvient quand même de ce spectacle hallucinant, ahurissant, des chars d'assaut que le pouvoir envoyait quand même devant l'enceinte où se tenait la conférence nationale pour tout arrêter.
Tout à fait.
C'était un symbole terrifiant.
Ben oui, en 91.
Et emblématique.
Le régime a attaqué la primature, et tout ça, et puis finalement, la transition a été retournée, et Yadema est revenu en force au devant de la vie politique.
Et son fils ensuite.
Tout à fait. Et puis, moi, je dis simplement que tout ça est le fait que Yadema avait constamment peur que si le pouvoir lui échappait, ceux qui devaient le remplacer, c'était les nationalistes.
D'accord.
Parce que les Togolais sont restés nostalgiques de ce nationalisme.
Et c'est cette peur qui a amené Yadema, je veux dire, à mettre en place un régime de terreur pendant plusieurs années.
Parce qu'il voulait empêcher l'UFC, Gilchrist Olympio et les nationalistes de revenir au pouvoir.
Très bien. Yves Kouyamaïso, cette lecture de l'histoire, est-ce que vous la partagez?
Alors, ben, je partage assez régulièrement ce que dit mon collègue. Je vais le présenter un peu différemment malgré tout. Vous avez posé la question de l'origine du mal de Togolais. Et vous avez parlé d'extrême brutalité. Mmh. Écoutez, reprenons bien dans les années 60. Il y a un passage entre un pays colonisé, en tout cas c'est un territoire qui dépendait de l'ONU, et ce que j'appelle la post-colonie.
C'est ça.
Quelque chose qui doit se passer après, dans lequel le colonisateur doit rester maître du jeu. Donc, le colonisateur, par définition, comme dans tous les pays, francophones entre autres, c'est mettre au pouvoir des dirigeants qui ne contesteront pas le pouvoir de ceux qui vont venir. Donc, par définition, dès qu'on parle de nationaliste ou de progressiste, vous voyez que le choix est clair. Il n'est pas question de soutenir des nationalistes. Donc, Olympio Silvanus, qui a été d'ailleurs assassiné par des gens de la post-colonie, quel que soit le nom et les auteurs. Deuxièmement, les nationalistes, ils étaient dans la mouvance 1956, conférence de Bundung, c'est-à-dire les pays non alignés. Voilà, donc tout ce groupe-là, on les connaît. Ceux d'Algérie, Lumumba au Congo, etc.
Ahmed Bendela.
Bien sûr, à côté le Ghana de Nkrumah, donc tout ce groupe-là voulait se détacher fondamentalement de cette post-colonie. Donc, les Occidentaux, notamment les colonisateurs ex, ont choisi, par les services secrets, d'infiltrer ces progressistes, de les retourner et, très rapidement, de faire en sorte qu'ils reprennent le dessus sur les nationalistes. Ils ont donc bénéficié essentiellement des services secrets, essentiellement des forces militaires et bien d'autres choses encore, qui ont expliqué, entre autres, l'assassinat et par la suite, le fait qu'on mette quelqu'un qui, par définition, en termes de compétences, pose un problème définitif aux Togolais, mais pas du tout pour la post-colonie. Et c'est ce système-là, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, alors, a obligatoirement deux objectifs. Il ne faut absolument pas que les nationalistes reviennent au pouvoir, absolument pas, et ça va très loin, ça va jusqu'en économie, où il ne faut pas développer le secteur privé, il ne faut surtout pas développer les entreprises, pas de peur qu'ils fassent de l'argent, et que ils fassent des coups d'État. Du coup, il y avait un système intéressant, s'associer, s'organiser autour d'un système de brutalité, comme vous l'avez dit, que ce soit une brutalité physique des militaires qui tapent tout sauf soutenir le pays lui-même et protéger les frontières, qui brutalité juridique, il s'agit de l'impunité totale, brutalité au niveau des élections, ce qu'on fait la contre-vérité des urnes, et brutalité tout court, si vous n'êtes pas content, écoutez, vous sortez du pays.
Très bien, on marque une pause, retour dans deux petites minutes, c'est pour la publicité, on reprend ce débat absolument passionnant, hein, et vos paroles évidemment nous édifient beaucoup sur ce mal togolais, sur cette exception togolaise. À tout de suite.
De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Avec Philbert Attissot qui vient de publier Le mal togolais, quelle solution aux éditions L'Harmattan. Philbert Attissot est journaliste, essayiste, président du parti Le Togo Autrement. Et avec mon téléphone, Yves Kouamaïso, coordonnateur général de CVU Togo-Diaspora. C'est le collectif pour la vérité des urnes. Nous parlons de l'exception politique togolaise dans une exception nichée, hein, au cœur de cette région de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Philbert Attissot, rapidement, quel bilan vous faites des actions de l'opposition face à ce régime depuis, disons, cette dernière décennie?
Alors, le bilan, il est négatif. Alors, le bilan de l'opposition, il est négatif parce que depuis pratiquement 25 ans que l'opposition est née officiellement, il y avait toujours existé une opposition au régime des progrès. Depuis 60, il y avait une opposition qui existait. Mais l'opposition a été légalisée après les contestations de 1990.
C'est ça.
Mais son bilan après 25 ans, il est négatif. Tout simplement parce que l'opposition a toujours été menée à la baguette par le courant nationaliste.
Oui.
L'UFC, d'abord, à partir de 91, qui a pris le leadership de l'opposition avec à sa tête Gilchrist Olympio. Tout le monde devait lui faire allégeance, c'était le mythe, on ne pouvait pas le critiquer. Même tous ceux qui voyaient qu'il conduisait la lutte vers des dérives ne pouvaient pas le dire, parce que le dire, c'est être du parti au pouvoir. Et puis ensuite, quand en 2010, il a signé un accord avec le RPT, ben ses lieutenants l'ont quitté pour aller créer l'ANC. Et de 2010 à ce jour, l'ANC, qui a repris tout l'héritage de l'UFC, est devenu maître de l'opposition également. C'est le parti qui mène l'opposition.
Oui.
C'est pour cela que je dis que les Togolais sont restés nostalgiques de la période du nationalisme, de ce mouvement nationaliste. Et donc, l'opposition togolaise n'a jamais voulu s'organiser véritablement.
Et vous, votre parti, alors le Togo, autrement, c'est un parti qui se situe dans l'opposition.
Nous sommes dans l'opposition, ça c'est clair, tout le monde nous connaît, nous sommes dans l'opposition. Et nous venons justement parce que nous nous sommes dit que ça fait 25 ans que l'opposition existe au Togo, qu'elle travaille et qu'elle n'arrive pas à inverser le rapport de force. Donc, il y a besoin de faire l'opposition autrement.
Vous parlez de la nécessité du renouvellement générationnel de l'opposition.
Tout à fait. Parce que.
Que vous incarnez?
Ben oui, que nous voudrions incarner. Parce que, quand même, après 25 ans, ça fait une génération. Ceux qui dirigent l'opposition jusqu'à ce jour ont pris de l'âge. Ils n'ont pas voulu renouveler les stratégies, les conceptions. Nous avons proposé dans un passé récent que l'opposition fasse des états généraux. Avant d'aborder le scrutin présidentiel de 2015, ça n'a pas été fait. Nous avons été même combattus. Ben, aujourd'hui, il est clair que d'autres forces politiques doivent émerger. Dans le but de rajeunir l'opposition, de lui insouffler du sang neuf, c'est-à-dire dans la perspective de ce que vous appelez le renouvellement générationnel.
Ce que vous écrivez d'ailleurs, je vous ai cité.
Et puis ensuite, de concevoir même la lutte politique contre le régime autrement, parce que ce pays a besoin d'une alternance pour aller de l'avant. Sans alternance, aucun pays ne peut aller de l'avant. Donc il y a besoin d'une alternance, mais l'opposition qui est face au régime RPT Unir depuis 25 ans, n'a pas réussi à avoir des résultats.
Elle est peut-être épuisée aussi, finalement,
quatre décennies de combat, ça use. Son bilan, il est négatif. Et je pense que quand vous regardez l'opposition togolaise aujourd'hui, ben, ceux qui sont au devant de la scène aujourd'hui sont en deçà de ceux qui étaient, ou en tout cas de ceux qui avaient commencé l'opposition. Quand je prends les gens comme Edem Kodjo, Maître Agboyi, Bo, le professeur
Nibidi. On a oublié qu'Edem Kodjo a été dans l'opposition depuis très longtemps. c'était dans une autre vie, hein,
tout à fait.
Ou dans d'autres vies antérieures.
Bon, il faut pas oublier non plus qu'il a été aussi du RPT.
Oui, bien sûr,
pendant
il a même été un des concepteurs des statuts du RPT.
Tout à fait, donc je veux dire simplement que ces précurseurs de l'opposition, que sont ces gens-là, qui n'ont pas réussi non plus, ben, sont mieux que ceux qui sont au-devant
alors
de la
vous mettez
scène
à la retraite
aujourd'hui.
Donc les acteurs de l'opposition traditionnelle et vous, vous en appelez donc à ce renouvellement générationnel de l'opposition. Yves Kouamaïso, est-ce que vous partagez ce bilan de l'opposition? Est-ce qu'aujourd'hui il faut, je dirais, rajeunir, renouveler en tout cas les acteurs, enfin la scène politique togolaise?
Alors, je partage, oui, je serais beaucoup plus sévère. Il n'y a pas d'opposition au Togo. Il n'y a pas d'opposition.
Ah oui, pour vous, il n'y a pas d'opposition au Togo.
Non,
il y a mais là, vous avez un opposant quand même, Philbert Atiso, qui vient de créer son parti, au Togo autrement.
On va y venir, justement, puisqu'il parle de renouvellement.
Oui.
Donc, on va y venir. S'il n'y a pas d'opposition, il faut une opposition. Donc, je classerai, moi, notre ami, dans cette nouvelle opposition qui va émerger, qui est en train d'émerger, qui cherche à émerger.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Non pas parce qu'il faut changer de génération, parce que jeunes ou vieux, en termes culturels, vous avez des jeunes qui sont très vieux dans l'esprit culturellement, et vous avez des vieux qui sont très jeunes culturellement. Non, je n'ai pas un problème avec la jeunesse. J'ai un problème fondamental avec l'éthique de la notion d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Deux, le bilan est fondamentalement négatif de ce qu'on a voulu appeler l'opposition, pour une raison simple, manque d'aboutissement des mouvements collectifs. Ils en ont fait plein, des côtes-ci, des côtes-deux, ils se sont mis ensemble. La raison est toujours la même, c'est qu'ils ont appliqué ce que faisait l'autre parti. Un ego démesuré, vous ne pouvez pas critiquer dans aucun parti. Une culture caméléon, on travaille le jour dans l'opposition, la nuit, on est avec le pouvoir, sans oublier de prendre de l'argent, quelques 4x4, comme le fait Judas dans la conception judéo-chrétienne, par exemple. On refuse les primaires pour pouvoir choisir un candidat et s'aligner sur des programmes économiques, juridiques et autres. On ne veut pas, il faut faire allégeance à un chef, ça a été dit, hein, le faux guide, tout le monde le connaît, hein, l'UFC, après tout. Quand l'ANC, c'est l'ANC qui est le parti qui s'est désolidarisé de l'UFC, au fond, si vous réfléchissez bien, c'est que Gilles-Christ Oulipu a seulement demandé de ne pas aller aux élections. Il faut lui reconnaître cela.
Oui.
Et c'est parce qu'on voulait y aller que l'ANC a fait son chemin. Et aujourd'hui, il a le même rôle. Ils ont même un statut, on se demande s'ils ne sont pas payés comme les ministres, d'où la rupture. Et alors, quelque chose de beaucoup plus grave, si on veut un changement, aucun des partis d'opposition, je ne sais pas pour le nouveau parti qui est à côté de vous, mais aucun des partis d'opposition ne choisit son dirigeant sur la base d'un vote à bulletin secret ou même à main levée. Et donc, quand vous faites des critiques internes dans ces partis, parti, en tout cas ce que je sais, et beaucoup nous rejoignent ou beaucoup nous envoient des courriers, c'est que vous êtes expulsé, mis de côté. Vous levez le doigt quand vous avez le plus haut possible. Je ne citerai pas son nom, mais nous avons un doyen très connu. Quand il lève le doigt, il est tout petit, mais tout le monde feint de ne pas voir son doigt, et il se reconnaîtra, et tout le monde le reconnaîtra. Ça veut dire que ce parti ne peut pas fonctionner. Non, il n'y a pas d'opposition au Togo. Il y a des individus qui s'organisent pour une chaise où chacun veut s'asseoir, et à défaut de la chaise, on s'assoit sur le tabouret, et à défaut du tabouret, on s'assoit par terre, et à défaut de par terre, écoutez, on suit derrière comme des larbins. C'est ça le problème qu'il y a au Togo.
On
ne trouve pas au Burkina, par exemple.
Je voulais citer un extrait de votre dernière analyse parue sur le site de collectif pour la vérité des urnes. Et c'est vrai que, à vous lire, on a le sentiment que le pays est quand même demeuré dans l'impasse, surtout lorsque vous soulignez la démobilisation, voire la résignation des populations. Alors, vous avez fait une sorte, je dirais, d'analyse commentée des vœux du chef de l'État, vœux prononcés au Nouvel An il y a quelques jours. Et vous écrivez ceci, je vous cite, le peuple lentement désinhibé des vertus de la culture du combat collectif et désorienté par les tergiversations du plus grand nombre pour organiser de manière structurée et stratégique le combat pour l'alternance politique, donne l'impression d'avoir fait l'impasse sur la compétence, l'efficacité, la création de richesses partagées pour préférer la facilité et l'alignement sur le système Yassimbe. Le système Yassimbe, c'est le système présidentiel. Et vous continuez, alors je vous cite toujours, le résultat est terrible. Près de 69% de chômage, notamment chez les jeunes et les femmes, à croire que la protection du citoyen togolais s'est graduellement transformée en protection du citoyen fort Yassimbe et ses sbires communautaristes. Fin de citation. Alors c'est vrai qu'avec un tel tableau, Yves Kouama Izo, on a du mal à envisager une alternative à moyen terme au Togo.
Absolument, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de parti d'opposition et je me réjouis que des nouvelles forces sur des bases nouvelles, sur des analyses nouvelles, sur des stratégies nouvelles sont en train de réfléchir. On ne peut pas dire que ce régime, comme les oppositions, peuvent être fiers d'avoir un pays qui est, après toutes ces années, à 69% de pauvreté, dans lequel le pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré, dans lequel on paye toujours lance-pierre des gens, et dans lequel, quand vous travaillez, vous n'avez pas plus de 35 ou 40 000 CFA par mois, et vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire un aller-retour taxi en dessous de 2 000, 3 000 aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de redistribution, d'inégalité fondamentale, qui est lié à ce cercle concentrique, qui prend plusieurs formes, et sur lequel, malheureusement, la pauvreté, la peur, on l'a dit tout à l'heure, les brutalités font que, bon, ce peuple inhibé se dit, écoutez, après tout, moi, pourvu que je mange quelque chose, et puis on verra bien. D'ailleurs, ce serait très intéressant de voir, une fois qu'il y aura un changement, combien de gens vont continuer à soutenir le régime. Vous savez, on a eu ça avec M. Bédié, qui croyait être soutenu, et du jour au lendemain, il n'y avait plus personne derrière lui, parce qu'à un moment donné, on l'a vu pour Mobutu aussi. Tout le monde était derrière, parce qu'on ne voulait plus entendre le coup de bâton. Mais ça ne veut pas dire que les gens adhèrent. C'est là le fond du problème. C'est ça, justement, ce mal de Dolé qui peut donner un côté d'optimisme, parce qu'à un moment donné, ça va bien lâcher tout ceci. Mais qu'on ne se fasse pas des idées, ce n'est pas un problème togolo-togolais. Il y a bien cette influence extérieure qui ne veut pas voir des gens et des cerveaux fonctionner. On a parlé des Edem Kodjo et bien d'autres. Ça, c'est des gens qui ont fait l'ENA. Attendez, c'est des grosses têtes. Oui. Si ces gens sont arrivés aussi à tomber à ce niveau-là, certainement que les pressions étaient beaucoup trop fortes.
C'est ça.
Et peut-être seuls, peut-être mal organisés, je ne sais pas. Ils ont oublié d'utiliser le peuple, peut-être. Et c'est là où je reviens au fond. Ils ont préféré la facilité.
Et vous dites, vous précisez d'ailleurs qu'au Togo, je vous cite, Yves Kouama Izo, 10% des revenus du pays sont allés à 4,8% de la population togolaise la plus pauvre, alors que 10% de la population la plus riche du pays se partage 34,5% des revenus richesses du Togo. C'est cela, écrivez-vous, la recherche de l'égalité et la fraternité du système Faure Yassimbe. C'est vrai qu'au Nouvel An, le président Faure Yassimbe en appelait à l'égalité et à la fraternité. C'est quand même cela, Fulbert Atisso, le résultat de 5 décennies de face à face de ce combat entre d'un côté ce que vous appelez les nationalistes, de l'autre côté ce que vous appelez les progrès, en tout cas de ces deux tendances politiques qui ont occupé la scène politique togolaise.
Mais oui, mais le résultat, c'est la ruine du Togo. Quand vous regardez aujourd'hui le Togo dans une sous-région de pays qui avancent et qui connaissent la prospérité, ben on constate que le Togo n'avance pas. D'abord sur le plan politique, le Togo n'avance pas. Il y a encore beaucoup de pesanteur sur le plan politique. Et puis sur le plan économique, c'est le fiasco, ça n'avance pas du tout. Mmh. Je voudrais revenir un peu sur la question de l'opposition, parce que j'ai constaté que Yves Ekwueu-Maizo a eu la dent dure contre l'opposition.
Mais vous aussi un peu quand même.
Ben oui, un peu, mais pas de la même façon, parce que pour moi, il y a une opposition qui existe.
Pour Yves Ekwueu-Maizo, il n'y a pas d'opposition. Il dit, il en faut une, mais pour l'instant, il n'y en a pas.
Bon, d'accord.
Et il vous encourage d'ailleurs à structurer votre parti politique.
Hein, au moins, il y a un peuple qui veut l'alternance et qui est de l'opposition. Parce que l'opposition, par définition, c'est tous ceux qui s'opposent au régime. C'est pas forcément tous ceux qui sont dans des structures. C'est tous ceux qui s'opposent.
D'accord.
Donc, il existe une opposition.
Mais votre parti politique, entre parenthèses, rapidement, j'ai envie de vous demander combien de régiments, finalement. Est-ce qu'il y a des adhérents? Comment ça se passe?
Ben oui, ça se passe très bien. Nous incarnons un espoir.
Oui. Combien de membres aujourd'hui, votre parti politique?
Ben, 1600 quelque chose. Enfin, ceux que nous avons inscrits sur les fichiers de notre parti, ceux qui sont adhérents. Bon, maintenant, depuis que je suis en France, ceux qui, par Facebook, m'interpellent en me disant où est-ce qu'on peut vous trouver, où est-ce qu'on peut trouver votre siège à Lomé, comment on fait pour adhérer à votre parti, tout ça, ils sont très nombreux. Alors, sur les prochaines périodes, quand je vais rentrer à Lomé, nous allons commencer le maillage du territoire. Nous allons commencer.
Alors, qu'est-ce qui garantit que vous n'allez pas finalement vous-même reproduire, je dirais presque par héritage, ce qui s'est produit au Togo depuis 50 ans?
Ben, justement, c'est pour cela que je dis, il y a eu deux problèmes au sein de l'opposition, essentiellement. Le manque d'engagement des chefs de parti, de ceux qui se réclament.
Qui aurait pu imaginer que Gutis Olympio allait rejoindre le parti au pouvoir après 30 ans de combat politique?
Absolument, ça a été une...
Et qu'est-ce qui vous garantit que demain, vous aussi, vous n'allez pas vous aligner, je dirais, dans la norme togolaise?
De toute façon, ça n'est pas encore arrivé. Et je suis très engagé depuis 25 ans, on se connaît très longtemps, et pour l'instant ça n'est pas arrivé. Alors je dis, le manque de sincérité, l'engagement de ceux qui dirigent les partis de l'opposition, ce n'est pas un engagement qui est coulé dans le marbre. On l'a vu dernièrement avec certains autres partis après les élections, au but par exemple d'autres partis qui se rapprochent du parti au pouvoir.
C'est ça.
Et il était même l'allié de Yves Ekwueu-Maizo dans le CVU, je pense.
Et puis parce que Yves Ekwueu-Maizo appelle l'opposition alimentaire.
Tout à fait. Et puis deuxième chose,
les héros sont
le manque de conception. Parce que quand on est en face d'un régime comme celui-là, qui ne veut pas partir, qui veut conserver le pouvoir, qui utilise les moyens d'État et les relations internationales, Yves Ekwueu-Maizo l'a souligné, parce qu'il y a également un problème extérieur au Togo, qui est exogène. Tout le problème, il n'est pas endogène.
C'est ça.
Ben, quand on est en face d'un régime comme celui-là, on est d'abord organisé, et puis on se définit une conception de la conquête du pouvoir. Alors, quelle est la conception de l'opposition? Tantôt, certains vous disent, il faut aller dans une révolution, il faut aller dans une lutte armée, il faut aller par les urnes, etc. Je pense qu'il existe une opposition, mais nous n'avons jamais eu une opposition structurée qui s'est donné les moyens de la conquête du pouvoir.
C'est ça. Finalement, je dirais presque une forme d'incompétence, quand on écoute ce que vous dites. Hein,
tout à fait.
Il y a une opposition qui d'un coup dit on ne va pas aux élections parce que les conditions
sur
sont pas
réunies. Dernières périodes.
Et qui quelques jours après donc se retrouve aux élections.
D'ailleurs, avec
la conviction qu'elle sera battue à cette élection.
Ben tout à fait. Ceux qui ont participé à cette élection, le CAP 2015. Il savait très bien qu'il ne gagnerait pas. Je parlais tout à l'heure de conception que l'opposition devait avoir. Prenez le CST, qui a été un rassemblement des organisations de la société.
Le collectif Sauvons le Togo.
Sauvons le Togo. Vous les avez reçus ici dans ce studio. Je vous écoute toujours, je vous ai écouté. Et donc, un rassemblement assez fantastique entre société civile et les partis de l'opposition. Et le 12 juin, ils ont fait près de 500 000 personnes dans le carrefour des cons. Ça a été une manifestation spectaculaire. Des ambassadeurs sont venus, ils ont dit, mais on n'a jamais vu ça au Togo. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce qu'il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de conception. Tout ça n'a abouti à rien. Donc notre parti, notre jeune parti, veut sortir de ce schéma que l'opposition a eu depuis pratiquement 25 ans et veut aller vers une conception renouvelée de la conquête du pouvoir.
Très bien, Philbert Attisso, restez avec nous. On va marquer une dernière pause dans cette émission et ensuite on va encore débattre un peu et on passera aux conclusions. Conclusions forcément provisoires pour ce Togo et qui évidemment est inscrit comme tous les autres pays d'Afrique d'ailleurs dans une dynamique. La question est de savoir finalement quel sera le résultat au bout de ce long tunnel. Restez avec nous, à tout de suite.
Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
L'exception politique togolaise, nous en parlons avec Philibert Attissot, auteur de Le Mal togolais, quelle solution aux éditions L'Harmattan, et Yves Kouyamaïso, économiste, coordonnateur général de CVU Togo Diaspora, c'est le collectif pour la vérité des urnes. Yves Kouyamaïso, oui. C'est vrai que voilà, on parle de l'exception togolaise. Bon, il y a une autre exception, malheureusement, enfin, parce que évidemment, disons, le Togo est plutôt mal accompagné. Hein. Il y a deux exceptions en Afrique de l'Ouest. On signale souvent le Togo et la Gambie, hein, deux pays hein, qui sont singulièrement marqués par ce lourd déficit démocratique dans la sous-région. Pourquoi concrètement, alors, ce qui a été possible sur le plan politique au Bénin, au Ghana voisin, et même au Nigeria plus récemment, sans parler du Sénégal, hein, ne se produit pas au Togo?
Ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce problème alimentaire et pose un questionnement de fond, je ne vais pas y revenir dessus, et d'ailleurs c'est à ce titre d'ailleurs qu'un CVU Togo s'est créé avec un certain Agbeyo Mekojo qui était en fait membre de tout le groupe au départ, et puis bon, nous on s'est désolidarisé avec le CVU Togo Diaspora. Ça c'est pour expliquer l'opposition alimentaire. Puis un autre problème de fond, c'est qu'il y a une opposition qui veut légitimer le système en place. Parce que si tous les opposants avaient choisi de ne pas aller aux élections la dernière fois, les élections présidentielles, je m'entends, regardez bien ce qui se passe. D'abord, c'est pacifique. C'est pacifique. Il n'y avait aucun mort au Togo. Ça a été le leitmotiv toujours de la diaspora. On ne veut pas de mort inutile pour la démocratie. Malheureusement, certains ont choisi d'y aller. On a demandé récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, à M. Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement, est-ce qu'il regrette quelque chose? Il a dit non, il ne regrette rien du tout. S'il fallait recommencer, il recommencerait. Oui. Ce qui veut dire concrètement qu'en 2020, il allait refaire la même chose, il allait avoir la contre-vérité des urnes de nouveau, et du coup, on se retrouve dans la même situation. Donc, c'est pour ça que je dis que cette opposition-là, sincèrement, il y a un problème de fond.
C'est pour ça qu'il contribue donc à légitimer un système qui est décrié par ailleurs.
Ben oui, bon, on n'a pas les détails. On ne sait pas s'ils ont touché l'argent. On ne sait pas si c'est des arrangements entre eux. On ne sait pas si c'est pas mieux de rester dans l'opposition.
On le soupçonne en tout cas.
Bon, moi je le dis pas. Moi je dis seulement qu'on ne sait pas tout ça. Ce qu'on sait, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est plus facile d'être dans l'opposition si jamais on touche de l'argent. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être compétent puisqu'on n'a rien à faire. Et on touche de l'argent tout en circulant parce qu'il y a quand même quelques 4x4 blanches qui circulent dans le pays, quelques gardes du corps qui sont devenus un certain membre de l'opposition, etc., etc.
Est-ce qu'on peut dire que finalement tout projet politique a disparu du logiciel de l'opposition togolaise?
Non, on peut pas dire ça. Il existe un certain nombre de programmes, j'en reçois, je les lis, ces programmes ne sont pas coordonnés. Je dirais un autre élément très important, c'est la plupart de cette opposition locale refuse d'écouter la diaspora. Dans tous les secteurs, on ne peut pas dire, vous savez qu'on a un stock, mais alors extraordinaire, de médecins togolais à l'étranger, pour ne pas dire en France.
Oui.
Prenez ça, vous allez résoudre votre problème du ministère de la Santé en très peu de temps. Et ces gens sont même disposés à venir travailler, voire même amener des équipements. Et on les met au rebut. Je ne prends que cet exemple-là, et on a dans tous les secteurs. Nous avons un ami qui a trouvé un système en informatique qui permet de faire tout un système de radio locale, qui nous permet de nous évader de cet Internet qui n'arrive pas à nous faire avancer. On l'a mis au rebut. J'en donnerai beaucoup d'exemples puisque je suis dans le domaine privé. Alors, je pense que tous ces éléments que vous dites, Togo, Gambie, vous avez raison, il y a un problème de fond qu'on n'a pas soulevé qui est la CDAO, les structures régionales. C'est que on ne fonctionne toujours que sur l'unanimité au niveau de la CDAO.
Oui.
C'est ce qui veut dire qu'il suffit que le Togo et la Gambie ne veulent pas tel ou tel texte pour faire avancer la démocratie, et tout est bloqué.
C'est ça.
Alors que vous savez qu'à l'Union européenne, et partout maintenant, c'est la majorité, qualifiée ou pas qualifiée, mais c'est une majorité. Il faudrait donc évoluer vers ça, y compris à l'Union africaine.
On l'a vu récemment, quand la Gambie et le Togo ont bloqué la règle de la limitation des mandats à 2 fois 5 ans.
Absolument. Mmh. Et derrière cela, il ne faut pas se cacher les yeux. Il y a encore un syndicat des chefs d'État. Et ce syndicat des chefs d'État est majoritaire. Oui. Elle met en question ceux les nouveaux arrivés. Voilà pourquoi la Guinée a des difficultés pour arriver à imposer son point de vue. Voilà pourquoi Macky Sall a des difficultés au Sénégal pour imposer son point de vue démocratique, notamment dans le cas du Burkina Faso. On pourrait citer un certain nombre d'exemples. Oui. Même le grand Nigeria a des problèmes pour faire passer des vues, parce que cette majorité du syndicat des chefs d'État ne joue pas et s'aligne sur les Occidentaux, notamment avec cette défense d'Al-Qaïda et autres, où ils envoient des militaires. Du coup, ici, si on envoie des militaires gratuits pour se faire tuer, pourquoi pas, on les prend et on se tait. Surtout s'il peut financer les partis politiques en France comme ailleurs.
C'est ça.
Donc, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps.
Oh, c'est vrai.
Deux conclusions rapides à faire.
S'il vous plaît.
Je pense que pour le Togo, il faut absolument une confédération des partis et des organisations d'alternance. Je dis bien alternance, pas d'opposition.
Oui.
Et il faut donc, et je soutiens l'idée qui a été énoncée, d'organiser des états généraux parce qu'il faut des élections. Il faut une vérité des urnes, au moins en entre ceux qui croient à cette alternance-là, pour qu'ils aient des représentants dans tous les secteurs, sur une base tournante. Sur une base tournante. Oui. On a bien vu que même en Allemagne, où Mme Merkel fait son troisième mandat, tout commence à partir un peu à la dérive. Donc il faut que ce soit sur deux mandats, et puis on s'en va. Et si on a réussi, tant mieux. Si on n'a pas réussi, écoutez, on peut servir à autre chose. Et il faut un programme. Ce programme doit être public. Quand le travail en sourdine, oui, mais il doit devenir public. Et quand vous le regardez les différents programmes, il n'y a pas des grandes différences d'ailleurs, surtout sur le plan économique. Un troisième point très important, beaucoup ne sont pas des gens qui travaillent. Regardez l'opposition de manière générale, vous quittez cette fonction publique, mais au moins créez des entreprises, créez quelque chose, créez des emplois. Apparemment, ça ne les intéresse pas. Donc leur conception de la création de la richesse et de la valeur ajoutée n'est pas sur une base du travail. C'est sur une base quand même de l'usurpation, de prendre ici et là. Donc ce problème doit être résolu par cette confédération, par ces états généraux. La deuxième chose très importante, la diaspora.
En conclusion,
je rappelle qu'on a payé 385 millions cette année, 2015 pardon, vers le Togo. Plus que l'aide au développement, plus que l'investissement étranger direct. Et tout ça pour pouvoir solder la pauvreté qui a été créée par Fonia Singbe. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette diaspora-là, on le refuse. On le refuse totalement parce qu'elle n'a pas été recensée, plus de 2 millions et demi. Et surtout, on lui refuse de voter. Même la plus grande difficulté qu'il puisse avoir pour la Centrafrique, malgré Bokassa, malgré Patassé, malgré tout ça, ils ont pu voter. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, il y a un rejet d'une population, on veut seulement prendre l'argent. Et malheureusement pour eux, on ne peut pas accéder à cet argent-là, voilà pourquoi ils n'ont pas accès. Et je conclurai là-dessus, parce qu'au fond, comme vous dites, c'est une conclusion à devenir.
Merci beaucoup Yves Kouamaïso. C'est vrai qu'on entend de plus en plus souvent que le Togo fait de notables progrès sur le plan économique, mais c'est vrai qu'à vous lire et à vous écouter, il y a un peu, je dirais, il y a quelques mirages qui cachent la forêt des problèmes. Au Togo, d'ailleurs, je pense que Fulbert Tissot émet... Enfin, vous avez plutôt dubitatif. Je voulais vous citer avant de terminer cette émission, Fulbert Tissot. Je pense que c'est un extrait qui résume bien votre ouvrage. Hein. Vous écrivez « Depuis l'indépendance de ce pays, du Togo donc, il y a plus de 50 ans, la vie politique n'a pas connu d'évolution qualitative. Pendant ce temps, des pays d'Afrique qui disposent de moins d'atouts ont réalisé d'importants progrès. Les processus démocratiques qui ont permis des avancées, état de droit, bonne gouvernance, alternance, etc. Dans certains pays, n'ont pas boosté la vie politique au Togo. La politique togolaise est demeurée statique depuis bien longtemps, en dehors des changements imposés par l'évolution du monde. Alors, toute proportion gardée, et Fulbert Tissot, c'est vrai que dans le contexte sous-régional, on a l'impression à vous lire que le Togo, c'est un peu la Corée du Nord de l'Afrique de l'Ouest.
Ben, tout à fait, oui, tout à fait. Il y a un ami qui me disait que quand il arrive au Togo, quand il vient au Togo, il a la même sensation que quand il allait en Roumanie à l'époque de Ceausescu.
Tiens.
Donc ça veut tout dire. Donc si aujourd'hui on compare le Togo à la Corée du Nord, je pense que ce n'est que justice. C'est vrai, la comparaison, elle est vraie. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, aujourd'hui, il est question de chercher une solution au mal togolais. Et la solution, c'est que l'alternance doit arriver dans ce pays. Il faut que le personnel politique dirigeant soit renouvelé. Il faut que d'autres arrivent au pouvoir, qui mettent en œuvre d'autres politiques.
D'autres intelligences.
Voilà, pour que ce pays puisse avancer. Bon, maintenant, la faute n'est pas qu'à l'opposition, parce que selon le constat que Yves Kouamaïso a fait tout à l'heure, disant que, bon, voilà, tout dépend un peu de l'opposition, je pense qu'il y a aussi une éducation à donner aux populations, parce qu'un peuple se prend aussi en charge, un peuple se libère, un peuple n'attend pas.
Il y a un devoir de pédagogie libéré de la part de l'opposition.
Donc, on l'a vu au Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, notre parti s'inscrit, par exemple, dans l'éducation des populations. Inculquer au peuple qu'il n'existe pas un messie quelque part qui viendrait vous libérer, mais que vous devez vous libérer vous-même. Vous devez vous prendre en charge. Et puis, la seconde chose, c'est que le peuple doit comprendre que il faut extirper la vie politique togolaise de ce face-à-face entre le RPT, l'UFC, l'UNIR et l'ANC aujourd'hui. Il faut que le peuple fasse davantage confiance à d'autres forces politiques, à d'autres courants politiques, et que le peuple comprenne que, eh bien, il faut faire confiance à ceux qui ont des projets, à ceux qui peuvent créer une alternative politique, parce que aujourd'hui, l'opposition que nous avons au Togo ne constitue pas une alternative politique.
En tout cas, la question de l'éducation, la question de la pédagogie, le rôle de votre pédagogie de l'opposition, des acteurs politiques que vous êtes, c'est un rôle essentiel qui jusqu'à maintenant est déficitaire au Togo, comme ailleurs d'ailleurs.
Hein. Tout à fait, ce rôle n'a pas été joué.
La conquête du pouvoir étant restée durant l'objectif principal d'ailleurs des acteurs politiques.
Tout à fait, ceux qui ont confisqué l'opposition jusqu'à ce jour, l'UFC avant et l'ANC aujourd'hui, n'ont pas voulu donner cette éducation au peuple. Ils ont voulu avoir un peuple mouton de Parnuge qui les suive. Et c'est des partis qui sont des partis populistes qui voulaient se faire suivre par un peuple à qui on ne voulait pas donner une éducation. Aujourd'hui, il faut davantage insister sur cette éducation et puis inculquer, et ce sera le mot de la fin, au peuple que le Togo n'a pas deux histoires, une histoire des progrès, une histoire des nationalistes, et que le peuple a une seule histoire.
Une histoire commune, bien sûr, et une communauté de destin.
Absolument.
Hubert Artisson, merci beaucoup. Le Mal Togolais, quelle solution aux éditions L'Harmattan? C'est votre dernier ouvrage en date. Yves Ekwa Maison, merci d'avoir participé à ce grand débat, coordonnateur général du collectif pour la vérité des urnes. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat, et prenez grand soin de vous. À demain.
Africa numéro 1, le Grand Débat, Francis Aloupo.